Notre stratégie depuis plutôt ces dernières années, c'est plutôt de construire un modeste empire, parce qu'il y a petit empire et gros empire. On n'est pas sur Napoléon, là, mais par contre, on est sur un petit empire familial, une foncière familiale, qui à terme, d'ici 10-15 ans, nous donnera le choix finalement d'arbitrer ou non, de faire le choix de vivre n'importe où dans le monde sans aucune contrainte, en déléguant beaucoup, parce que finalement, tout aura été amorti. Voilà, ça, c'est la stratégie.
Bienvenue dans Finary Talk, le podcast qui vous parle de vos finances et vous apprend à mieux investir. Finary, c'est l'appli et le site pour gérer tout votre patrimoine au même endroit. Notre mission, vous permettre d'atteindre vos objectifs en mettant la technologie au service de votre argent. Rejoignez-nous sur finary.com et ensemble, construisons le futur de l'investissement. Pour ce troisième épisode, nous accueillons Julien Calamotte, investisseur et ex-joueur de poker. Julien a acheté 10 appartements en 2019, il nous partage aujourd'hui son parcours, ses conseils et vous aide à vous lancer à votre tour dans l'investissement immobilier. Bonne écoute!
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Finary Talk. Les Finary Talk, qu'est-ce que c'est? C'est des conférences durant lesquelles j'échange avec des experts sur des sujets hyper précis. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Calamotte. Bonjour Julien.
Bonjour Mounir. Bonjour à tous.
Merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Julien, le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet qui plaît à beaucoup de Français, c'est l'immobilier locatif. Et c'est l'immobilier locatif rentable surtout. Mais avant de partir dans le vif du sujet, peut-être que tu peux présenter un peu ton parcours et nous dire voilà, qui tu es.
Ouais, avec plaisir. Donc, Julien Calamotte, mon parcours, il est assez atypique, comme beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs. Donc, pour la faire courte, moi, j'ai grandi en région toulousaine. J'ai fait quelques études au Canada, sciences politiques à l'Université de Montréal. Et puis, de retour en France, j'avais envie de travailler dans le marketing. Ça m'avait toujours attiré. Donc, j'ai commencé par travailler dans l'e-marketing. C'était les balbutiements du marketing digital, loin de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, on s'éclatait quand même pas mal. C'était l'époque où on pouvait tordre les moteurs de recherche comme on voulait. Et donc, on va dire correctement gagner sa vie avec du référencement naturel et grâce aux algorithmes de Google. Donc, ça, c'était la première chose. Et puis, j'ai vite entrepris. Au bout de 2-3 ans, j'ai créé quelques boîtes. J'en ai craché pas mal aussi. Enfin pas mal, non, j'en ai vraiment craché une à vrai dire et j'en ai revendu d'autres. Voilà, donc c'est un profil un peu atypique entre salariat et entrepreneuriat avec un démarrage dans l'immobilier en 2010, pour la première acquisition d'un studio meublé en hypercentre de Toulouse qui est la ville dans laquelle j'habite, donc 2 ans après mon retour de Montréal. Et voilà, et depuis, j'ai fait pas mal d'autres choses, un peu d'immobilier, mais pas trop pendant quelques années. Puis je m'y suis remis très fortement fin 2017, début 2018. Je pourrais l'expliquer peut-être un petit peu tout à l'heure, mais voilà, avec une stratégie assez agressive, une accélération assez forte, voilà, qui a impliqué quand même pas mal de questionnements, notamment pour aller chercher du levier bancaire, etc., qui est un peu le nerf de la guerre, quoi.
Hyper intéressant. D'ailleurs, l'agressivité, ça vient peut-être du poker, qui est un jeu où il faut être agressif et il faut en permanence calculer les probabilités de gain, l'espérance de gain, levée.
Ouais, c'est un peu effectivement. Donc ouais, j'ai joué au poker effectivement pendant pas mal d'années. Donc j'ai beaucoup joué au poker quand j'étais étudiant. C'était mon activité principale officieuse. J'ai fait quelques tournois un peu dans le monde aussi. Voilà, beaucoup joué sur du multitabling avec des trackers, donc sur internet, et plutôt assimilé comme un trash talker à la table et donc un joueur assez agressif,
assez aggro.
Voilà, assez aggro, exactement, mais aggro, voilà, aggro, on va dire aggro modéré, hein, pas loose aggro. Okay. Non plus,
pas déjà.
Ouais, mais voilà, pas partir en tilt non plus au moins d'un truc. Mais par contre, voilà, ça m'a quand même pas mal forgé. Ça m'a aussi apporté un rapport à l'argent qui est différent de celui que j'avais avant de commencer à jouer au poker. Puisqu'il faut être capable, quand on joue au poker, quand même de se déconnecter totalement de la valeur de l'argent. Parce que si on commence à dire que ce qu'on est en train de miser, ça représente tel ou tel objet ou tel rêve, bon, en fait, on se déconnecte un peu de la chose. Voilà. Donc, ouais, c'était une bonne période de ma vie. Ça fait un petit moment que j'ai plus trop joué, par contre.
Voilà. Top. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs poker qui sont recyclés dans la crypto. Donc voilà, on les salue et c'est assez intéressant parce que c'est un peu les mêmes types de profils. Juste avant
Isabelle Mercier, là, qui était le poker pro d'ailleurs, la première canadienne québécoise qui s'était convertie dans la crypto il y a peut-être maintenant 10 ans déjà.
Bah même le fondateur de Ledger, pour ceux qui connaissent,
c'est un
ancien, il a joué au poker, bon, c'était pas son activité principale, mais il a eu une carrière notable. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne connaissent pas encore Finari, si ça existe, je sais pas, voilà ce qu'on a fait pendant que vous étiez à la plage, à la piscine. On a bien travaillé cet été, on a sorti plein de choses, on a communiqué plus ou moins dessus. Pour ceux qui sont attentifs, vous l'avez évidemment vu. Donc, sans rentrer dans le détail, on vous affiche maintenant vos dividendes, votre exposition sectorielle, votre exposition géographique. On a complètement revu la page emprunt. Si vous avez des emprunts, vous allez voir plein de nouveautés là-bas. Donc, allez bien voir. Et on a revu aussi l'estimation immobilière. Donc, maintenant, normalement, vous devriez recevoir régulièrement vous devriez voir beaucoup de variations sur l'immobilier. Donc, ça tombe bien qu'on soit avec toi, Julien, parce que toi, tu dois en avoir énormément. Et aussi, la grosse nouveauté qu'on vous prépare, c'est l'application Finari. Donc, si vous n'avez pas encore précommandé l'application qui va sortir donc dans quelques semaines, vous pouvez le faire maintenant. Donc, on vous a mis deux QR codes, iOS ou Android. Vous pouvez le flasher. Ça vous emmènera sur l'App Store et vous pourrez précommander l'app. Donc, je vais le laisser à l'écran quelques instants. N'hésitez pas à précommander l'app. Comme ça, vous l'aurez dès le jour de la sortie. C'est évidemment gratuit, mais vous aurez l'app dès qu'elle sera sortie. Vous pourrez tester les nouveautés. Ce sera vraiment... L'application, ça sera vraiment un complément au site. Donc, il y aura des choses qui sont exclusives à l'app. Donc, ça sera vraiment hyper important de l'avoir. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et puis, on va y aller. Top, bah, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut commencer tout au début de ton aventure immobilière? Est-ce qu'on peut commencer avec ton premier investissement immobilier? Est-ce que tu peux nous raconter la genèse, ce qu'était cet investissement et aussi ce qu'il est devenu? Est-ce que tu l'as toujours?
Alors, le premier investissement, donc, c'était en 2010. Et en fait, il est issu d'un postulat de mon épouse, qui est mon épouse actuelle, que j'avais rencontré quelques années avant 2010, et qui, en fait, avait fait une acquisition dans l'immobilier neuf pour faire de la défiscalisation, hein, pour améliorer sa fiscalité. Et donc, avait acheté un truc sur plan. Voilà, je vous la fais courte, mais quelque chose que je suggère pas aujourd'hui, d'une certaine manière oui, mais en tout cas pas comme ça, et qui nous coûtait, quand on s'est rencontrés, peut-être 200-250 euros d'efforts par mois, okay. Et qui était complètement illiquide, et qu'elle a eu du mal, beaucoup de mal à solder, puisqu'on a voulu solder en fait, hein, et puis finalement annuler cet avantage fiscal pour réinvestir sur quelque chose qui était beaucoup plus, on va dire, optimisé fiscalement, à savoir un studio meublé avec une cible étudiante dans l'hypercentre d'une ville, donc dans un immeuble patrimonial, une ville qui est très étudiante comme Toulouse, puisque c'est une ville, c'est une très grosse ville étudiante en France. Et donc, avec aussi le statut, en bénéficiant du statut de l'MNP, qui est fiscalement aujourd'hui ce qui se fait de mieux, en tout cas en matière d'amortissement et de fiscalité des revenus fonciers, même si ce n'est pas considéré comme des revenus fonciers, mais des revenus commerciaux. Mais en tout cas, si on vulgarise un peu la chose, c'est ça qui nous a poussé à le faire. Donc, on a réitéré 3 mois après avec un second, fort de cette expérience. Voilà. Donc, plutôt fin 2010, premier investissement.
OK. Et donc, le programme neuf que tu as acheté, c'était peut-être pas un Pinel, mais c'était l'ancêtre du Pinel, en gros.
Ouais, c'était, je sais plus quelle loi, parce que c'est mon épouse qui l'avait acheté avant de me rencontrer, donc j'étais pas du tout à l'initiative du sujet, mais elle se rappelle quand même d'une chose, c'est qu'elle était donc, bon, à l'époque elle avait une autre vie avec son ex-conjoint, et le CGP, donc le conseiller en gestion de patrimoine qui leur a vendu ça, leur a quand même dit, ma femme a posé la question, vous achèteriez ça, et lui a répondu non, moi j'achèterai pas ça, je ferai du LMNP. Bon, son ex-conjoint a quand même, qui était un obsédé des impôts, en fait, a voulu vraiment le faire pour économiser des impôts, et donc ils sont partis s'engouffrer là-dedans. Et quand on s'est mis ensemble avec mon épouse, on a soldé ça très très rapidement.
Vous avez soldé ça rapidement, ouais. Voilà. Ok. Et donc tu parlais de Toulouse. D'ailleurs, je crois que c'est une des particularités de ta stratégie, c'est que tu es hyper concentré sur cette ville ou sur une zone en tout cas.
Ouais, j'étais très très concentré sur Toulouse et le triangle d'or toulousain, donc des immeubles assez, avec du cachet. J'ai des appartements qui ont plus de 500 ans d'âge, donc c'est quand même des trucs avec une certaine valeur patrimoniale. D'ailleurs, il y a des immeubles qui sont, on a des appartements dans des immeubles qui sont inscrits au monument historique. Donc ça aussi, c'est d'autres contraintes. Mais on en a d'autres aussi qui sont beaucoup moins sexy, évidemment. Et donc, on s'est focalisé là-dessus. Déjà parce que le marché toulousain, c'est un marché qui est très dynamique, mais qui reste abordable par rapport à d'autres grandes villes. On est loin des prix de Paris, mais on est aussi loin des prix de Limoges, hein, ça c'est sûr. Mais par contre,
c'est quoi le prix au mètre carré à peu près pour ceux qui ne connaissent pas ?
Alors, sur un studio petite surface étudiante, c'est très cher. Hein, nous, on a revendu, on a arbitré des biens là, il y a 2 ans, on a revendu à 8 300 euros du mètre.
Ah ouais,
c'est quand même cher. Sur du studio.
C'est voilà. Élevé, ouais.
Sur du studio, voilà, studio 16-18 mètres carrés, donc c'est le produit que tout le monde s'arrache dans une ville tendue étudiante comme Toulouse. Voilà, mais ouais. Sinon, en moyenne, on va dire que sur des biens locatifs petits comme ça, dans le triangle d'or, on va être sur plutôt du 5 500-6 000. Et après, en moyenne sur la ville, on va être sur du 3 500.
Ok. Voilà.
Et 3 500 et 4 000.
Et déjà, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'IMO, ils se disent oui, mais les prix ont déjà tellement monté que je suis un peu le dindon de la farce, c'est moi qui achète le top du marché. Est-ce que déjà à l'époque, on disait ça de Toulouse ? Est-ce que les gens disaient c'est cher, ça a monté, etc.
Je pense que ça se dit toujours dans toutes les villes. En fait. Ouais. Et historiquement, le marché est toujours haussier. C'est un peu le même constat qu'on fait sur la bourse. C'est toujours haussier historiquement sur le long terme. Après, oui, il y a des swings. Donc, voilà, c'est sûr que si on achète en haut de la courbe et qu'on doit arbitrer 3 ans après et qu'on est en bas de la courbe, même si c'est une variation de 5 ou 6 points, forcément ça, on va se rappeler que de ça quoi. Après nous on a fait de beaux arbitrages avec des belles plus-values sur une détention de plus de 10 ans enfin de ouais, 9-10 ans et on a aussi fait des arbitrages sur des détentions de 2 ans qui ont été bénéfiques parce que le marché était porteur. Après ça aurait pu être le contraire. Maintenant sur une stratégie à long terme, si on peut se permettre de garder à long terme et de ne pas arbitrer, je dirais que la sécurisation sur l'immobilier, dans une ville en tout cas dynamique comme Toulouse, avec une industrie aéronautique assez forte, ouais. Beaucoup, beaucoup d'écoles, d'universités qui sont quand même à ses côtés, il y a peu de risques. Je n'irai pas faire ça à Saint-Étienne aujourd'hui. Voilà. Après,
on n'a rien contre les gens à Saint-Étienne.
Après, non, mais il y a des villes, c'est la première ville qui me vient où il y a vraiment quand même une décroissance des prix depuis quelques temps. Ouais. Voilà, mais après on n'a pas investi que sur Toulouse, hein. On a investi aussi un petit peu en dehors sur des villes qui sont à 30-40 km de Toulouse mais qui restent proches et accessibles du bassin d'emploi toulousain et du bassin étudiant toulousain qui
sont quand même assez importants. Ça marche. Et du coup la stratégie Calamotte aujourd'hui c'est quoi la méthode, qu'est-ce que tu cherches comme bien, c'est quoi ce que tu sais parfaitement faire et que tu as, je crois que tu m'avais dit que tu avais acheté 10 appartements en 12 mois.
Ouais, c'est même 11. C'est 10 appartements et une résidence principale en 12 mois. Donc, notre résidence principale, on l'avait achetée en 2008, la première, donc même avant même de faire des investissements. Parce okay. qu'on avait des enfants et qu'il fallait aussi héberger toute cette famille. Et que t'as pas la même stratégie, en fait, quand tu as une vision patrimoniale avec des enfants, une succession à venir, même si c'est dans 30, 40, 50 ans, peu importe. Mais t'as pas la même vision que si tu es tout seul dans ton coin, célibataire. Aucune contrainte, aucun engagement moral et familial. C'est quand même, je pense, c'est différent. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, en fait, mon exemple à moi n'est pas forcément, on va dire, un exemple pour tout le monde. Mais nous, notre stratégie, c'était de faire du patrimonial. Et en fait, la première chose qu'on s'est dite en 2010, quand on a investi, c'est de se dire, on va acheter quelque chose où on pourra y mettre nos enfants quand ils feront leurs études. Bon, c'est clairement un discours bullshit où, en fait, c'est un truc que tu fais jamais. Parce qu'on n'a jamais mis nos enfants, et pourtant ils ont eu des appartements, ils se sont allés faire leurs études, soit à Bordeaux, soit à Toulouse, mais finalement, ils n'ont jamais mis un pied dans nos appartements. Et on a loué les appartements de quelqu'un d'autre. Donc au final, c'est pas du tout le... Parce que ça se goupille jamais, en fait, les baux ne se goupillent jamais, et puis finalement, toi, tu préfères maximiser ta renta sur tes biens à toi, et aller louer un bien d'un mec qui fait moins de renta, quoi, au final, voilà, et qui est moins pris là-dessus. Donc finalement, on l'a jamais fait. Puis maintenant, notre stratégie depuis plutôt ces dernières années, c'est plutôt de construire un modeste empire, parce qu'il y a petit empire et gros empire. On n'est pas sur Napoléon, là, mais par contre, on essaie de se construire un petit empire familial, une foncière familiale, qui à terme, d'ici 10-15 ans finalement, nous donnera le choix finalement d'arbitrer ou non, de faire le choix de vivre n'importe où dans le monde sans aucune contrainte. En déléguant beaucoup parce que finalement tout aura été amorti. Voilà, ça c'est la stratégie. Et pour arriver à ça, on a d'abord investi, c'était notre choix, mais c'est pas forcément le meilleur. On a d'abord investi sur du patrimonial pour s'assurer d'avoir des biens très liquides en cas de problème.
Donc c'est quoi, juste du, c'est quoi du patrimonial
c'est de l'hyper-centre-ville, c'est du cachet, c'est vraiment de l'hyper-liquide.
Voilà, et t'es en cash flow positif sur ces opérations ou pas?
Les premiers, on a cherché qu'à être sur de l'autofinancement, en remboursant finalement beaucoup de capital aussi dans nos remboursements d'emprunt. Donc avec des durées quand même qui étaient assez longues, hein, sur 25 ans au départ. Il n'y a que depuis quelques temps où on investit plutôt sur 20 ans. Et après, ce qu'on voulait, c'était un juste équilibre finalement entre notre effort qui devait être de zéro, quoi. En autofinancement, quand je dis autofinancement, il faut que ça comprenne les charges, il faut que ça comprenne la quote-part du foncier à minima. Voilà. Il ne faut pas juste que ça comprenne la mensualité de crédit, évidemment. Bien sûr, ouais. Donc, sinon, on n'est plus, on n'est pas vraiment en autofinancement. Et après, dans une seconde étape, on a cherché à aller chercher un peu plus de cash flow. Et là, il a fallu sortir un petit peu des triangles d'or parce qu'il ne faut pas se voiler la face sur Toulouse Hypercentre. C'est très compliqué d'aller chercher du cash flow. Et là, on est sorti un petit peu pour diversifier notre stratégie vers des villes un peu plus périphériques, qui sont peut-être un peu moins liquides, mais pas vraiment plus au final, vu la tension du marché actuel, mais qui par contre permettent de se faire des rentabilités intéressantes. Mais on se rend compte qu'au
final... C'est quoi les rentabilités intéressantes pour toi ?
On est sur 11-12% à peu près, brut.
Ça, c'est, tu peux donner par exemple un bien qui tombe dans cette catégorie, donc, et c'est quoi le nom de la ville aussi, si tu veux ?
Bah, la ville, il y en a qui vont me haïr quand je vais dire ça, parce qu'il y en a qui aiment bien cacher les villes. Moi, j'ai pas trop de problème. Je trouve que ça rend le marché plus haussier quand on en parle. Mais la ville, elle s'appelle Montauban. Donc, elle est on va dire, à 35 minutes de Toulouse. Il y a une gare LGV qui va relier Paris directement d'ici 2028. Alors, c'est loin, hein, 2028.
Hein, mais ouais, mais c'est demain aussi. Donc,
voilà. Ça a été acté. Donc c'est une ville qui est très belle au niveau patrimonial, qui ressemble beaucoup à Toulouse, donc il y a des très beaux immeubles avec de la belle pierre, et aujourd'hui on est sur des prix alors qui ont bien augmenté, mais on est en dessous de 3000 euros du mètre carré, hein, sur de la petite surface. On est plutôt même à 2005 rénové à neuf, mais on arrive à trouver des biens quand même bien en dessous de ça, parce qu'on a une activité de marchand de biens à côté qui nous permet d'avoir un sourcing quand même intéressant sur de l'achat en volume. Et cette ville-là, on est allé chercher des rentabilités. Je prends un exemple, par exemple, on a pu trouver des appartements à 45 et 50 000 euros que tu peux louer entre 550 et 600 euros par mois. Ouais. Donc voilà, ça te fait une renta supérieure à 10 points brut, c'est quand même intéressant.
C'est clair.
Avec des biens qui sont pas dégueulasses, hein, enfin des trucs sur lesquels nous on met quand même beaucoup d'efforts dans ce qu'on fait sur les biens. Si certains d'ailleurs suivent ma page sur Instagram, je partage quelques réalisations, quelques rénos, et on essaie de faire les trucs de manière assez propre, quoi.
On va mettre le compte en commentaire. Le bien, tu disais rénové à neuf, c'est-à-dire que toi, tu achètes que des choses qui sont, que des poubelles, tu achètes que des trucs qu'il faut complètement refaire. C'est là où tu fais ta marge finalement, enfin, c'est là où tu vas chercher de la perf.
Alors, c'est sur la stratégie de marchand de biens, mais on va pas parler de ce côté-là, oui, ça c'est évident, c'est clair, c'est ce qu'on cherche. Mais le sujet du jour là sur l'investissement plutôt patrimonial, on va dire, pas forcément, parce qu'en fait sur des marchés tendus comme Toulouse, en fait tu te rends compte que les mecs, même s'il y a tout à refaire et qu'il faut tout casser, ils bradent pas leurs biens parce que t'as des gens de Paris qui viennent acheter, et qui pour eux Toulouse c'est la campagne, c'est hyper accessible et c'est un peu les soldes, hein, quand on vient de région parisienne, et ça reste quand même une belle ville, la quatrième ville de France, donc non, en fait, on n'achète pas forcément que des poubelles à rénover. Après, quand on est marchand, qu'on négocie des immeubles de 800 mètres carrés, là, on est plus forcément sur des choses où il faut tout refaire, quoi.
Voilà. Ok. Et comment tu le trouves, comment tu trouves tes biens ? Tu parlais du sourcing. C'est quoi aujourd'hui, sans révéler tes secrets, évidemment, mais c'est quoi tes sources ? Est-ce qu'il y a un secret ? Peut-être qu'il n'y a pas de secret non plus, c'est le bon coin comme tout le monde.
Il n'y a pas de secret. Franchement, principalement, c'est Boncoin et d'autres sites d'annonces. Okay. Le réseautage, c'est vrai, ça peut t'amener des biens. Après, sur la volumétrie, honnêtement, ça va représenter 10% des apports de biens. Parce que la problématique sur des marchés tendus, c'est qu'en fait, le mec, il a besoin de personne pour vendre. Il pose une annonce. En 4 heures, il a 10 appels et il n'en peut plus. Les mecs, ils veulent tous acheter sans condition suspensive. C'est hyper compliqué de créer du lien sur une ville comme Toulouse. Même si on l'a eu fait et qu'on en a fait quelques affaires comme ça, mais en fait ça se fait de moins en moins. Par contre, sur des villes un peu moins tendues, là tu peux travailler dans le long terme une relation un peu plus pérenne. avec un agent immobilier, avec un chasseur, etc. Et finalement, là, ça a vraiment un intérêt de passer un petit peu de temps et de créer une relation avec quelqu'un.
Voilà. Ok, ça marche. Et comment tu structures tout ça? C'est une question que je connais. Je sais qu'on... Alors attends, laisse-moi juste trouver comment on faisait. Je ne me souviens plus. Tac. Hop. Donc, comment tu structures ton patrimoine? Et je vais juste montrer un slide parce que je pense que sinon, on va vite se perdre. Ouais. Donc, peut-être parler de la structuration de ton patrimoine et comment peut-être ça aussi, ça te permet de, bah, d'aller un peu plus loin que la fameuse barrière d'endettement des 35%. Je pense que c'est une question que beaucoup de monde se pose.
Alors, le premier choix qu'on a fait, encore une fois, on ne divulgue pas de conseils, hein, c'est juste du partage d'expérience.
C'est juste du partage, pas de conseils financiers. Du
partage d'expérience vraiment personnel et encore une fois, ça ne s'adapte pas à tout le monde.
Bien sûr.
Nous, ce qu'on a voulu faire, donc on le voit au départ, c'est ce qu'on a créé à droite, c'est le régime LMNP qu'on a souhaité donc optimiser à fond. Optimiser à fond, ça veut dire que finalement, il faut toujours flirter avec une limite qui est celle que les revenus de location meublée non professionnelle ne dépassent pas tes autres types de revenus. Voilà, il faut toujours que cette proportion soit inférieure à 50% des revenus globaux. Donc, ça veut dire que si vous avez 100 000 euros de salaire à l'année sur le ménage, bah, il ne faut pas que vous ayez plus de 100 000 euros de revenus de location meublée professionnelle. Sinon, vous passez sur un statut qui s'appelle le LMP avec un régime fiscal totalement différent qui a ses avantages et ses inconvénients. On ne va pas rentrer dans les détails, vous trouverez plein d'infos sur Internet là-dessus, mais grosso modo, très intéressant pour l'achat-revente parce qu'au bout de 5 ans, on est exonéré de plus-value sur la partie LMP, ce qui n'est pas le cas sur la LMNP puisqu'il faut attendre 30 balais pour vraiment avoir une exonération totale. Par contre, après, en termes de fiscalité, bon, ben voilà, vous cotisez, vous avez des cotisations sociales importantes, vous lâchez quand même 40-45 points juste pour dégrossir comme ça,
de ce que
vous rentrez en imposition. Quoi. Donc, optimisation du LMNP à fond, et puis quand on veut aller encore un cran plus loin, on a des revenus fonciers qui vont commencer à dépasser les autres types de revenus. Donc, dans les autres types de revenus, il y a tout, hein, les salaires, les dividendes, etc. On est passé, nous, on a fait le choix de professionnaliser l'activité, de créer une foncière familiale, donc il y a une SCI à l'IS, et cette SCI, on l'a créée nous en 2013, donc on l'a créée très en amont. Et quand on l'a créée, on y a mis notre enfant qui à l'époque avait 3 ans. Et on l'a mis, notre petit dernier, on l'a mis au capital. Donc on lui a donné 29% du capital d'entrée. Ce qui fait que c'est déjà acquis pour lui. Et aujourd'hui il a 11 ans et bon, la SCI a vachement grossi. Bon, ça fera ça de moins à transmettre aussi. Donc, vachement important. Donc, on voit bien que sur le schéma, alors, j'ai pas de pointeur, mais on voit que moi, à titre perso, j'ai fait un focus sur moi. Hein, voilà, j'ai pas inclus mon épouse là-dedans, mais du coup, je détiens 46% de cette SCI à titre personnel. J'en détiens 5% avec la holding. Ça, c'était, les 5%, c'est pour bénéficier du régime mère-fille, en fait, entre une holding et ses filiales. Et donc, il y a une exonération d'imposition sur les remontées des dividendes. Je vais pas rentrer dans le détail. Qui est intéressante, et puis surtout ça me permet d'injecter du cash de la holding donc dans la SCI familiale pour m'en servir d'apport et de levier pour aller continuer à emprunter. Ces dividendes de la holding, ils peuvent remonter d'une société de marchand de biens dont je suis actionnaire à 50%, hein, donc on est deux associés, qui fait, cette année on va faire 1,2 million de chiffres de revente, voilà, donc c'est quand même, il y a un peu de volumétrie avec... Voilà,
c'est énorme.
Un peu de dividende, puisque c'est pas l'activité principale de mon associé et c'est pas la mienne. Donc, en fait, on va dire que c'est de l'argent de poche à la fin. Donc, on peut les faire remonter facilement. Attention, 1,3 million, enfin, 1,2 million, c'est le chiffre, hein, c'est pas le résultat.
Bénéfice, ouais, bien sûr.
Mais voilà, les marchands peuvent calculer les marges moyennes des activités. Et une autre société de marchand de biens où là, je détiens à 90% avec la holding et à 10% à titre perso. Donc, finalement, c'est une SASU déguisée, mais on est deux actionnaires qui est moi en personne physique et moi en personne morale. Où là, je fais des plus petites opérations, mais tout seul, qui sont financées en fonds propres. Voilà. Donc, plutôt, voilà, j'achète cash, un bien cash, donc ça va vite. Ça me permet d'acheter avant les autres aussi, sans conditions suspensives. Faire quelques petites opérations.
Tu es prêt à te positionner sans... Enfin, tu t'es prêt à enlever les... Enfin,
ouais,
pas demander de conditions. Parce qu'en même temps, tu n'as pas d'emprunt à demander, donc a priori. Bon.
Donc, il n'y a pas de conditions sur l'emprunt. Après, s'il y a une division à faire et tout ça, oui, il faut des conditions à l'urbanisme, etc. Mais ouais. Ça, les vendeurs l'entendent aussi un petit peu plus. Et puis, en fait, comme ils ne maîtrisent pas forcément les sujets, on peut leur mettre quand même quelques conditions assez facilement. Et après, il y a toute la partie donc, de la holding qui aussi remonte des dividendes par la partie private equity et obligations amortissables. Donc du coup, les obligations amortissables, grosso modo, c'est que je prête via la holding de l'argent à des sociétés qui en ont besoin. D'ailleurs, mm-hmm. beaucoup de promoteurs immobiliers qui vont finalement financer leurs fonds propres via des levées de fonds pour aller chercher du levier bancaire après auprès d'une banque.
Et tu fais ça via des plateformes ou comment tu trouves ces gens-là?
Ouais, via des plateformes.
Ouais, okay. C'est quoi ces trucs-là?
WeSeed, principalement.
Ok, WeSeed.
WeSeed, qui est une boîte locale, toulousaine. Ouais. Ouais. Pas du chauvinisme du tout, mais j'ai commencé à investir chez eux dans des startups, dans la tech en 2015. Et du coup, je suis resté après quand ils ont développé la partie immobilière. Et puis du private equity. Donc là, par contre, je suis en direct. Donc actionnaire en direct. Assemblée générale, etc. Directement. Et là, j'investis dans des boîtes qui sont soit en phase, on va dire, d'amorçage. Donc on n'est plus dans de la startup avec du risque. Qui vont lever 300, 400 000 euros. Donc, on est plus dans des phases de seed. Et après, je peux investir aussi. Le dernier investissement que je suis en train de déboucler, c'est une boîte qui fait plus de 100 millions d'euros. Donc, elle a déjà pignon sur rue, plusieurs années d'existence, etc. Et où là, je vais avoir une infime partie du capital. Par contre, c'est une boîte voilà, où il y a une perspective assez importante de faire voilà, entre x5 et x10 sur les 3 prochaines années. Vu c'est la dynamique du marché. Encore. C'est pas Finari, mais j'aurais vraiment aimé faire partie du premier tour de Finari, mais peut-être le second.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est incroyable, c'est une transition excellente, parce que du coup, là, déjà, peut-être, pour préciser, tu t'es pas réveillé une nuit et tu t'es dit, tiens, c'est voilà le schéma, je le vois dans ma tête, je le dessine et ensuite je le fais. Tu t'es entouré, tu as travaillé peut-être avec un comptable, un avocat, un fiscaliste. Comment c'est né ce... Parce que c'est hyper complexe quand même là. Enfin, ça, tu l'expliques de façon hyper claire, mais on ne se réveille pas un matin en se disant on va faire ça.
Non, non. Après, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme, mais je me suis toujours intéressé au maillage en fait des plus grosses entreprises et des plus gros entrepreneurs. J'ai toujours essayé d'appliquer à ma modeste échelle. Et au final, tu te rends compte que ça fonctionne quand même, que tu as un patrimoine de quelques centaines de milliers d'euros ou que tu as un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ça fonctionne. Après, c'est la manière dont tu vas ventiler ton patrimoine, dont tu vas prendre du risque, etc. Mais au final, ça fonctionne très bien. Et donc, je me suis pas mal documenté tout seul. Je fais souvent valider à mon expert comptable aussi, mais je me suis jamais trop finalement fait accompagner d'un fiscaliste ou d'une aide sur la partie juridique en dehors de mon expert comptable qui maîtrise quand même bien le sujet parce que lui-même est quand même investisseur immobilier aguerri. Donc,
ça marche. Et du coup, tu as des livres à recommander sur ce sujet, des livres, des blogs, des sites. Si tu as des sources, n'hésite pas à les partager.
Bah, c'est plus des livres sur le mindset, en fait, moi, qui m'ont quand même boosté pas mal. Bon, il y en a qui sont connus, en fait, on retrouve toujours les mêmes, de Millionnaire Fastlane, donc l'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco, qui franchement ouvre l'esprit sur le fait qu'en fait, du cash au niveau mondial, tu en as partout, qu'il se passe des trucs dont tu n'as même pas idée, avec des volumes de cash. Impressionnant et en fait qui te disent ok ça te fait te dire c'est accessible à tout le monde et je peux le faire. Donc, c'est plutôt la partie mindset, voilà. Bon, Père riche père pauvre, c'est un classique, mais bon,
classique, ouais.
c'est hyper romancé, hein. Les deux sont américains,
donc ouais, c'est un peu romancé. Le problème américain, mais bon, ouais, c'est plus pour t'ouvrir l'esprit, je pense.
C'est ça. Après, sur du concret, moi j'aime beaucoup, bon, les livres théoriques c'est assez facile, hein. Tu prends le Bodac, t'as toute la fiscalité, elle est écrite, ouais. L'imposition, etc. C'est lourd à lire, mais au moins il y a que ça de vrai, ça c'est la vraie bible. Et après, sinon, j'aime beaucoup lire les expériences d'investisseurs parce que au final, il y a qu'en échangeant avec des gens qui l'ont déjà fait et qui l'ont fait encore plus fort que toi que tu peux grandir. Et donc j'essaie de m'entourer un petit peu de gens comme ça, d'aller à quelques événements, voilà, même si je suis pas forcément toujours à l'aise sur les événements tout ça, mais voilà, j'aime bien quand même m'entourer de gens et pas que des investisseurs immobiliers, des entrepreneurs. On apprend beaucoup avec des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont bien gagné. Bien gagner leur vie, qui ont craché des boîtes aussi. C'est important de discuter d'échecs avec beaucoup de gens aussi, pas que des réussites. C'est là qu'on apprend finalement le mieux et qu'on peut éviter soi-même d'en faire au maximum, quoi.
C'est hyper important et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire chez Finari avec la communauté et avec ce genre de talk. C'est vraiment qu'on échange nos expériences parce que voilà, Je pense que quand on va voir sa banque, on sait très bien que le conseil qu'on va obtenir, il n'est pas indépendant, il n'est pas très bien intentionné, pas toujours en tout cas. Alors qu'ici, voilà, on échange entre particuliers et je pense que ça a beaucoup plus de valeur. Et je pense que ce que tu nous racontes là est finalement beaucoup plus intéressant que si tu avais un intérêt à nous vendre quelque chose. Là, tu n'as rien à nous vendre, tu partages ton expérience et je trouve ça top. Et du coup, ça m'amène à ma prochaine question et ensuite on commencera le Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie dédiée. En quoi Finari finalement ça t'aide à suivre ton patrimoine et comment ça t'aide aujourd'hui?
Bah, je vais pas être très très original, mais en fait comme tout le monde j'avais des tableaux Excel dans tous les sens. Et d'ailleurs on en parlait avec ma famille hier et une tierce personne qui disait non mais Julien il a des tableaux Excel dans tous les sens, il adore ça, c'est son truc, voilà, il pilote tout. Parce que j'aime bien les chiffres, les stats, etc. C'est peut-être le côté poker qui est en moi. Et donc, je gérais un fichier pour ci, un fichier pour ça. J'essayais de tout consolider. Mais en fait, tu n'arrivais à rien connecter. La problématique, c'est la donnée, en fait. C'est la problématique principale. En fait, un particulier est scellé dans son coin. Tu n'as pas accès à la même data que peut avoir accès à une boîte qui a développé, qui a des devs pour maintenir les algos, etc. Donc forcément, ce que vous avez fait avec Finari, honnêtement, ça m'a enlevé une épine du pied. Déjà, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Ça a tout centralisé sur un device mobile. Et aujourd'hui, avec l'application en plus, ça sera encore plus confortable. Et puis surtout, au même endroit, je peux piloter à la fois toute ma diversification hors immobilier, mais aussi de la diversification au sein de l'immobilier. Parce qu'il y a aussi l'immobilier papier. Hein, il y a le papier, il y a l'immobilier... Voilà, il y a les boîtes, il y a les investissements dans les startups, en private equity. On peut tout piloter. J'ai commencé à investir dans l'art aussi et je vais le développer de plus en plus. Je peux tout piloter à l'intérieur. Même, il y a encore des améliorations à faire sur ce sujet-là, mais franchement, en fait, le fait... Parce qu'on n'a peut-être pas trop parlé, mais nous, on s'est rencontrés parce que j'étais utilisateur de Finari.
Ouais.
Parce que du coup, je me suis permis de te faire pas mal de feedback sur le sujet pour faire évoluer l'app. Et quand j'ai vu comment l'équipe de Finari était réceptive, je me suis dit, c'est génial parce qu'en fait, l'outil, il n'est clairement pas abouti parce qu'en fait, c'est jamais abouti. C'est jamais abouti, une app. Voilà, donc, il y a des releases tout le temps, etc. Mais par contre, il est déjà largement suffisant pour gérer tout un patrimoine et suivre et piloter son patrimoine. Et en plus, il y a des nouveautés tout le temps et les mecs, ils sont ouverts à la transfo, quoi. Ouverts au retour, etc. Et j'ai trouvé ça génial, en fait, d'avoir une équipe aussi abordable, proche d'un outil, plutôt que d'acheter un outil d'une boîte américaine. Voilà, j'en sais rien si ça existe, tu vois, mais avec qui tu peux pas
dire. Made in France. Non, c'est important. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la page emprunt aujourd'hui... la majorité des choses qu'on a développées, en fait, c'était suite à tes retours. Donc, si vous avez une nouvelle page emprunt, c'est grâce à Julien qui m'a dit ça manque, c'est indispensable. Tout investisseur devrait regarder ça. Il a raison. Ouais.
Et d'ailleurs, le TRI, on n'en a pas parlé, mais le TRI, c'est un truc hyper important que beaucoup d'investisseurs oublient et ils se focalisent trop par le cash flow, rendement brut, rendement net, peu importe comment on le calcule, mais cash flow, rendement. Et le TRI, moi, j'en suis la preuve, j'ai des TRI beaucoup plus élevés sur des biens où j'ai beaucoup moins de cash flow parce que j'ai des potentiels de plus-value latente qui sont impressionnants. Alors que souvent, plus on a de cash flow, moins on a de potentiel de plus-value, moins on a de liquidité. Alors attention, c'est pas une règle générale, il y a toujours des exceptions comme partout, mais de manière quand même majoritairement, cash flow égale moins liquide et égale plus-value latente moins important et enrichissement latent aussi moins important, parce que
c'est clair.
Plus on emprunte sur une durée longue, moins on rembourse de capital et donc moins on s'enrichit passivement.
C'est clair. Le TRI, pour info, c'est le taux de rendement interne et c'est un indicateur qui permet de comparer des investissements qui n'ont rien à voir, notamment l'immobilier, par exemple, aux actions, parce qu'il prend en compte les flux. Et donc, c'est quelque chose qu'on affiche déjà dans l'immobilier, mais on va l'afficher bientôt partout. Et donc, en gros, le TRI, c'est vraiment l'indicateur qui permet de comparer un investissement en art avec un fonds euro et avec un livret A. Donc, c'est un peu souvent, en fait, quand vous allez voir des investisseurs qui sont très avancés ou qui ont des très gros patrimoines ou qui sont très pointus dans un sujet, c'est le seul indicateur qu'ils vont regarder. Enfin, c'est un des indicateurs clés, c'est vraiment le TRI.
Clairement.
Trop bien, Julien. On va passer à la question, aux questions. Tout à l'heure, on a parlé de livres intéressants, mais il y en a un quand même que tu n'as pas évoqué, c'est ton livre. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir le gagner si vous faites partie des trois questions les plus upvote. Donc Julien a écrit un livre sur l'investissement immobilier.
Il est presque assorti aux couleurs de Finari.
C'est clair.
Avec de la dorure.
Qui a copié qui? Je demande. qui a copié qui. Donc voilà, vous pouvez voter pour des questions. Donc soyez évidemment, vous pouvez voter, ne vous créez pas des comptes et votez pour les vôtres, mais voilà, votez pour les questions que vous trouvez vraiment intéressantes, comme ça tout le monde profitera de réponses et les trois meilleurs, on vous recontactera après et on vous enverra un bouquin. Et avant de prendre les questions du chat, d'ailleurs, on va prendre les questions de la communauté. Et la première question, c'est, en fait, il y a déjà répondu, c'était est-ce que tu as une RP ? Donc oui, mais je voulais un peu revenir dessus parce qu'on dit souvent, oui, on achète une RP, après, c'est fini, on ne peut plus jamais emprunter. Comment, est-ce que la RP, finalement, elle a eu un impact et c'est quoi ton conseil sur la RP ? S'il faut en acheter une, il ne faut pas en acheter une, il faut louer.
Clairement, nous, on a acheté une RP parce qu'on en avait besoin, voilà, parce que c'était, on avait envie de capitaliser, on n'avait pas envie de donner un loyer à quelqu'un d'autre. Mais à l'époque, on n'avait pas le mindset d'investisseur qu'on a aujourd'hui, donc bon, la question ne s'était même pas posée. Depuis, on a changé de RP, on a investi dans une RP beaucoup plus quali, beaucoup plus grosse, dans Toulouse, Intramuros, etc. Donc, pas du tout les mêmes sphères de budget. Et on l'a fait quand même parce qu'en fait, toujours pareil, il y a cet enrichissement latent, on capitalise. On revend dans 5 ans, ben on a capitalisé, on n'a pas laissé un loyer. Enfin, moi, aujourd'hui, ne pas acheter sa RP, pour moi, c'est pas envisageable. Après, pour certains qui sont plus jeunes, qui ne sont pas encore posés, qui n'ont pas forcément de visibilité sur 3 à 5 ans, bon, je peux comprendre. Après, nous, quand tu commences à avoir une famille, etc., implantée, voilà. Et j'achète des RP, clairement, pas pour bénéficier de l'exonération fiscale, de la revente, etc., parce que c'est quelque chose qu'on ne fera jamais, parce que sur la première maison qu'on a achetée, on a fait des travaux dedans pendant qu'on y habitait, et je ne le referai plus jamais. Tu ne peux pas déménager tous les deux ans pour bénéficier de cette exonération, juste pour tirer ce levier-là. Il y a d'autres moyens d'optimiser. Franchement, une RP, c'est là où tu dois bien te sentir, elle doit te plaire, et tu dois capitaliser en fait, sur le moyen long terme. Quoi.
D'ailleurs, ça rejoint un peu ce que tu me disais, c'est que l'immobilier, pour toi, c'est pas, tu n'as pas envie d'empiler des biens, ce n'est pas une finalité en soi, c'est plus un outil qui te permet d'atteindre un objectif.
Ouais, clairement. L'outil, en fait, moi, je suis parti. En fait, j'ai pas hérité. Hein, mes parents sont encore vivants, et tant mieux, parce que je préfère qu'ils soient vivants plutôt que d'avoir hérité de quoi que ce soit.
D'ailleurs, tu es en CDI, enfin, peut-être, c'est important d'en parler.
Tout à fait, ouais. J'aurais dû le dire dans la présentation, mais voilà, moi, aujourd'hui, je suis en CDI, j'ai un poste salarié dans une boîte dans laquelle je m'éclate avec des beaux challenges. Voilà, effectivement, ben, ça me fait rencontrer, tu vois, passer des journées avec des mecs comme Sébastien Chabal, entre des gens, on fait des super trucs, des beaux tournages autour de piscines, franchement, on se régale, quoi. Et pour rien au monde, j'aurais envie de changer de job aujourd'hui. Donc, et en fait, je pense pas être trop mauvais dans ce que je fais, en plus, ça me plaît, je vois pas pourquoi je sacrifierais mon job pour vivre de mes rentes immobilières aujourd'hui et me faire chier toute la journée. En fait, voilà, aujourd'hui, j'ai le choix de faire les deux. Ben, en fait, je prends tout, quoi, parce que choisir, c'est un peu renoncer, et moi, j'ai envie de tout faire, donc je le fais tant que je peux le faire. L'immobilier, ça commence à être compliqué à gérer tout seul, quand même, maintenant. Enfin, tout seul, quand je dis tout seul, c'est nous, avec mon épouse. Donc, on va commencer à voir dans quelle manière on peut commencer à déléguer, mais quand tu délègues, bah, tu sais ce que c'est, hein, de toute façon, quand t'es entrepreneur, déléguer, c'est le nerf de la guerre, mais c'est aussi le plus dur à faire. Donc, quand t'as ton patrimoine, t'es bien, ne serait-ce que déléguer un état des lieux, ben, s'il manque un truc, à la fin, quand le mec te rend le bien, ben, la caution, c'est pour toi, quoi.
Donc aujourd'hui, c'est toi qui gères, enfin, vous gérez tout avec ton épouse à deux. Donc tous les locataires passent par vous, tout passe par vous.
Tout passe par nous, en dehors des Airbnb, enfin, des locations courte durée, où là, on se base sur une conciergerie. Alors forcément, les puristes de la renta vont te dire, mais une conciergerie, ça coûte un bras, etc. Ouais, mais moi, j'ai pas envie d'aller récurer les chiottes d'un mec qui a passé 3 jours dans mon appart, et j'ai pas envie d'aller changer ses draps, voilà, où il a fait je sais pas quoi. Donc, forcément, voilà, on préfère se faire accompagner là-dessus. C'est pas grave, on s'enrichit à terme, on s'enrichit moins à l'instant T. Mais bon, ma femme a un boulot, j'ai un boulot, on s'éclate. Voilà, on n'est pas pris à la gorge, quoi. Donc,
trop bien.
Donc, on en profite.
Trop bien. Du coup, question qui a été posée sur la communauté, mais que David a posée aussi ici, et c'est la question la plus upvotée. Donc, bravo, David, tu vas gagner un bouquin. Comment tu fais pour emprunter avec la limite des 35%? Je pense que c'est un peu la question magique, tout le monde se la pose. Comment tu fais? Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce que, je sais pas, tu connais un banquier, ton père est banquier, peut-être, tu ne nous l'as pas dit, c'est peut-être ça le secret.
Non. C'est quoi le secret? Non, j'ai aucun banquier d'offre. Aucun banquier dans la famille, aucun banquier dans l'entourage proche. D'ailleurs, je pas sûr que ce soit la meilleure des solutions d'être ami avec ton banquier.
C'est clair.
Parce que le discours peut être différent. En fait, la problématique de 35%, elle se pose depuis quelques mois. Enfin, elle est... Il y a de ça 2 ans, on n'en parlait pas du tout. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Il y a toujours eu ces 33% d'endettement. Avant, c'était 33, c'était même pas 35,
ouais.
Qui était un peu, on va dire, un usage, mais qui était largement dépassable sans aucun problème. Okay. Avant ça, il y a eu le calcul différentiel. Donc, nous, on a emprunté aussi quand il y avait le calcul différentiel. Donc, la méthodologie, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est juste de prendre finalement la charge d'un bien de manière intrinsèque et de l'isoler totalement du reste des revenus et des charges du foyer. Donc, si chaque bien, finalement, intrinsèquement est rentable, bon, ben, on peut continuer à emprunter tant que les biens restent rentables. Voilà. Le taux d'endettement, de manière globale, pris sur les revenus globaux plus les charges globales, c'est un indicateur qui est clairement bloquant pour tous les investisseurs immobiliers. Enfin, honnêtement, je ne veux pas vous le cacher, nous aussi, on va en souffrir à un moment donné si on veut continuer à investir sur la partie perso. L'avantage qu'on a, c'est qu'on investit de manière pro. Donc, la vision est totalement différente. Par contre, moi, quand je vois sur des sites ou des WhatsApp, etc., ouais, je viens d'emprunter à 0,90, ben moi, ça ne m'arrive pas, ça. Parce qu'en empruntant en tant que pro, je n'ai jamais des taux à 0,90, clairement. Mes taux sont toujours plus élevés. Alors, les derniers emprunts qu'on a fait, c'est plutôt 1,50 sur 20 ans. Ce n'est pas, okay. c'est pas déconnant.
Ouais.
Mais il y en a qui empruntent à 0,5 de moins. Bon, mais 0,5 de moins, c'est, si tu fais le ratio, c'est 3 fois moins cher, quoi. Ouais. Tu vois. Donc. Mais moi, ce que je veux, c'est que quand je vais dans une banque, on me dise OK, c'est bon, il n'y a pas de problème, on vous suit, il n'y a pas de sujet. Les conditions, ça va être ça. Oui, ben OK, je vais pas essayer de rater 0,3 sur un emprunt de 20 ans. Enfin, voilà. C'est pas là qu'est le nerf de la guerre. Donc, je suis prêt à payer plus cher. Je suis prêt à mettre, tant pis, un PEA ou un PEA PME dans une banque traditionnelle où l'ordre va me coûter 4 fois plus cher que chez un bourse direct ou autre. Ouais, je suis prêt à le faire, tant pis. Voilà. Alors, ce n'est pas le cas pour l'instant, mais si demain je dois le faire, je le ferai.
Ok. Avis à tous les banquiers. Vous avez un PEA à vendre, ouais. Julien le prend.
On a ouvert récemment un PER parce que c'était aussi un levier pour aller emprunter sur un projet immobilier. Voilà. Donc, on a ouvert un PER chez une banque traditionnelle.
Voilà. Ouais. Et donc finalement, tu fais un peu des, enfin, tu fais des gestes.
Il y a une relation.
Tout pour être dans les petits papiers de la banque en achetant leurs produits. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Et après, eux, ils vont regarder quoi ils vont regarder les biens que tu as déjà. Ils vont te demander de mettre le bien que tu achètes en garantie et de faire du privilège prêteur de deniers. Qu'est-ce qui est important pour eux, en fait? Ils vont regarder aussi peut-être ton historique et de voir que ça fait X années que tu fais ça et que ça marche.
Alors, déjà, les cautions, les organismes de caution, c'est fini. Ça fait belle
lurette. Ouais, ça, c'est juste
parce que l'encours est trop gros. Donc, en fait, les organismes de caution ont passé une RP un peu plan-plan, quelques biens d'investissement locatif et on va dire 800 000 euros d'encours. Après, tu les as plus.
Ouais.
Ça devient compliqué. Et après, tu commences à faire de la sûreté réelle. Hein, on appelle ça la sûreté réelle. Donc, la banque prend une hypothèque et un privilège prêteur de deniers sur... L'avantage du privilège prêteur de deniers, c'est que quand tu as des travaux, ils peuvent se garantir dessus, alors qu'une hypothèque, elle ne peut pas garantir des enveloppes travaux. Donc souvent, ils couplent les deux, une partie hypothécaire et une partie privilège prêteur de deniers. C'est un petit peu plus cher qu'un organisme de caution. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus malléable, et surtout en termes de délégation bancaire, c'est beaucoup plus simple aussi. Enfin, c'est beaucoup plus chiant à construire, hein, parce qu'ils prennent la responsabilité. Mais par contre, les mecs sont autonomes, ils n'ont pas besoin de demander à une tierce personne de leur garantir le truc. C'est eux-mêmes qui prennent la garantie. Donc ça, c'est une chose. Après, forcément, on est caution personnelle sur beaucoup d'emprunts pro, parce que c'est comme ça, et ça, c'est l'avis de tous les entrepreneurs, et même les mecs qui ont des boîtes qui font plusieurs dizaines de millions d'euros, ben, y en a qui sont encore caution personnelle des prêts pro. C'est comme ça. Voilà. Et ils n'ont jamais réussi à s'en défaire, mais il n'y a pas de secret. Si on veut gagner, il faut prendre un peu de risque. Donc voilà. Donc il y a ça, puisqu'on a quand même un peu de patrimoine net, donc ils peuvent se garantir un peu dessus.
Bien sûr.
Et après, il y a l'augmentation du taux d'apport. La proportion d'apport dans les projets qui clairement avant était de 0 et après est passé un petit peu à 5% puis 10% puis aujourd'hui il y a des projets sur lesquels on met 30% d'apport parce qu'on n'a pas trop le choix.
C'est ça où tu fais pas le projet.
Ouais, voilà. Alors du coup on choisit les projets sur lesquels on les fait, hein, parce qu'on voilà on... Mais alors, c'est pas sur tous les projets où on va mettre 30% d'apport, mais s'il faut le faire sur un projet qu'on sait hyper rentable, hyper patrimonial dans notre stratégie et qui correspond parfaitement à ce qu'on recherche, on peut le faire. Mais on peut le faire pourquoi ? Par rapport au maillage qu'on a montré tout à l'heure, qui permet aussi d'utiliser finalement les revenus d'autres sources, enfin d'autres sources de revenus pour pouvoir les emprunter dans l'immobilier et donc aller avec ces revenus refaire du levier. Et même si tu fais du levier de 1 pour 3, au final, ça reste du levier, quoi.
Ouais, parce que c'est, je pense que faut le voir aussi, enfin, tu t'enrichis littéralement avec l'argent de quelqu'un d'autre. Donc, et peut-être aussi pour remettre dans le contexte, d'ailleurs, pour ceux qui avaient vu le Finary Talk 1, avec Benjamin Durand, qui est un banquier privé qui gère des fortunes de plusieurs centaines de millions d'euros, il nous disait, la France, c'est un pays magique parce qu'en fait, on a des taux fixes sur des longues durées. Donc, en fait, ça n'existe pas, ça, dans la plupart des pays aux États-Unis, en Angleterre, ça n'existe pas. Donc, en fait, on peut devenir riche avec l'immobilier doucement, mais en fait, relativement sûrement quand même. Et ça, c'est vraiment... Et donc, ouais, tu disais 3 pour 1, mais en fait, 3 pour 1, même 2 pour 1, il y a toujours la moitié. Enfin, c'est énorme, en fait. On ne s'en rend pas compte, mais personne ne nous prête pour aller acheter des ETF. Alors que là, oui.
Donc, c'est... Et souvent, je discute avec des investisseurs qui me disent, mais je ne comprends pas pourquoi tu mets de l'apport alors que moi, j'emprunte à 110%. Moi, j'ai plein de biens, hein, où j'ai emprunté à 110%, il n'y a pas de sujet, hein, sur 25 ans, etc. Voilà, en payant un max d'intérêt à terme, bien sûr que je l'ai fait et je l'ai usé à fond. Mais en fait, quand je mets, je sais pas, sur un projet, on va prendre des contrôles, sur un projet à 100 000 euros, tu mets 30 000 euros d'apport pour aller chercher 70 000 euros, ces 30 000 euros-là, ils travaillent, hein, ils ont une rentabilité, il y a quand même, voilà, y a quand même du loyer en face, etc. Donc, ils ont une rentabilité. Si ton projet il est sur 10 points de rentabilité, bah, tu fais travailler ton argent à 10 points. C'est pas juste, tu ne l'as pas juste mis pour faire plaisir à la banque. C'est quand même de l'argent qui est placé. Alors, certes, c'est beaucoup moins liquide que d'aller solder une position sur une action totale. Mais en même temps, est-ce que tu vas mettre 30 000 euros, quand tu mets 30 000 euros dans la bourse, bon, bah, c'est pareil, tu les investis, tu les bloques pendant au moins un petit moment, quoi.
Ouais, c'est clair. Top. Prochaine question, Vincent Dumont, tu as aussi gagné un bouquin. Est-ce qu'il faut mieux commencer par un petit studio quitte à faire des erreurs, ou alors il faut tout de suite investir dans un petit immeuble pour augmenter la rentabilité et peut-être aussi maximiser son levier sur un premier projet. Donc, est-ce qu'il faut commencer petit ou il faut tout de suite y aller à fond?
Moi, je commencerai petit. Et d'ailleurs, il m'arrive d'accompagner quelques investisseurs là, qui me demandent quelques conseils, etc. Donc, je les accompagne dans leur projet. Et j'ai un dernier exemple en date. C'était un premier projet d'un investisseur qui s'embarquait sur un immeuble de rapport à diviser, à transformer, un immeuble commercial à transformer en habitation, etc. C'était un projet à plus de 500 000 euros, travaux compris. Mais clairement, il a dû faire marche arrière. Alors, je lui ai suggéré aussi de faire marche arrière parce qu'il y avait des raisons qui étaient un peu complexes. Mais c'était trop lourd. Et il s'est vite rendu compte qu'en fait, c'était trop lourd. Et il va revenir sur un projet sur lequel il dormira beaucoup mieux le soir et qui va le rassurer pour la suite. Et moi, je pense qu'il y a quand même une part de risque à partir sur un projet trop gros au départ, à moins qu'on soit vraiment très bien accompagné, hein, c'est-à-dire qu'on ait beaucoup de gens autour de nous sur la partie travaux, mais aussi sur la partie juridique, etc. Donc je conseillerais de démarrer sur du petit pour se rassurer, mais on peut trouver du petit très rentable, on peut trouver du petit patrimonial aussi, ça dépend vraiment de la stratégie de chacun. Moi par exemple, j'ai pas d'immeuble de rapport à 100%, clairement. J'ai que des loans en copropriété, j'ai plus de la majorité d'un immeuble, donc ce qui me fait en fait tout décider mais pas payer 100% des charges. C'est quand même aussi intéressant quand tu dois refaire une toiture de te dire que nous, on a 60% de la copro. Donc, 60%, en fait, est le roi du pétrole, clairement. Hein, tu vas à l'AG, t'es comme ça. Et en fait, tout ce que tu décides, toi, ben, les autres, ils n'ont pas le choix de le suivre. Surtout qu'on est, à la fois en nom propre, à la fois en SCI. Donc, il y a une entité morale, une entité physique. On n'est même pas vraiment seul en facial sur la partie vote. Et finalement, on décide de tout. Donc, quand il a fallu refaire la façade, nous, ça nous a coûté 6 euros à chaque 10 euros investis, quoi. Et l'autre problématique, je trouve, d'avoir des immeubles de rapport en entier, c'est qu'en fait, t'es propriétaire de tout, donc t'es responsable de tout. C'est-à-dire que si t'as un voisin qui fout le bordel à ton autre voisin qui est aussi, à son voisin qui est aussi ton locataire, bah t'as un peu le cul entre deux chaises. Et pour régler les problèmes, ça devient vite compliqué. Et quand t'es marchand de biens, tu te rends vite compte que tes immeubles, t'es aussi content de les avoir divisés, de les avoir revendus, plutôt que d'avoir tout gardé. Parce que quand tu vois le nombre de problématiques que chacun peut avoir derrière avec ses locataires et le mauvais, on va dire, la mauvaise ambiance dans un immeuble, bon, mais tu faire en avoir des fois un ou deux dans l'immeuble que la totalité, quoi.
Ok, donc on commence petit. Next question.
Je crois.
Vincent Le Gallet. Donc on y a déjà répondu, mais Vincent, on t'offrira quand même un bouquin. C'est comment on dépasse les 35%. Donc en gros, c'est il faut être investisseur pro, pas en perso. Ouais. Anthony.
Professionnaliser l'activité, ça, je trouve que c'est un gage de sérieux aussi vis-à-vis de la banque.
Ouais.
Et ça permet d'aller même encore plus loin sur des projets de locaux commerciaux ou des choses comme ça qui est un univers totalement différent. Hein. C'est, attention, on ne se lance pas dans les locaux commerciaux comme on se lance dans l'habitation. Mais c'est aussi un gage de sérieux de professionnaliser le truc et d'avoir un BP, un tableau de bord, un truc.
Bien sûr. Ouais.
Une boîte, quoi.
Bien sûr. Alors, Adèle, veut savoir quel était ton patrimoine avant d'acheter ces fameux 10 appartements, enfin 11 appartements en un an. Et est-ce que, enfin, quelle partie, enfin, combien de, à quel pourcent t'étais endetté déjà?
Donc, avant d'acheter, parce qu'on avait déjà arbitré quelques trucs, on avait une résidence principale, donc qu'on a soldée pendant cette année-là, une résidence principale, et on devait avoir deux biens. On avait deux biens.
Okay.
Bien, après on a rajouté ceux-là, on a rajouté d'autres depuis. Voilà. Mais en fait, on n'était pas très très endetté. On devait être, je dirais, à 25, entre 25 et 30 % le taux d'endettement si on prend un taux classique. Mais le calcul était différentiel, donc en fait,
C'était moins important.
Ouais.
Ok. Question un peu technique de Charles. En LMNP, les amortissements comptables baissent fortement au bout de 5 à 10 ans. Est-ce que tu conseilles de vendre les biens à ce moment-là?
Bon, c'est une bonne question, Charles, parce que en fait, c'est parfaitement ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'au bout de 8 ans de détention des premiers appartements, des deux premiers studios qu'on avait achetés, là, dont je parlais 2010-2011, bon, en fait, on les a soldés. Donc, ça s'appelle un arbitrage pour justement. Alors déjà, on a récupéré beaucoup de cash. D'ailleurs, j'en parle dans mon bouquin. Hein, je donne tous les chiffres. On a récupéré du cash, ce qui nous a permis d'aller faire énormément de leviers, bah, notamment aussi pour aller acheter des appartements, même si à cette époque-là, on ne les a pas encore vendus, mais bon, on savait qu'on avait ce cash qui dormait quand même dans les appartements, donc ça a pu nous servir de levier. En fait, grosso modo, tu vends, tu récupères 100 000 euros de cash, par exemple, pour avoir un compte rond, t'investis 10% avec 10 000 euros d'apport, bon, bah, son patrimoine, dans 20 ans, il n'a plus la même gueule que si tu avais gardé tes 100 000 euros dans les deux premiers appartements. C'est ça l'effet de levier qui est fou en fait sur l'immobilier. Et donc on a arbitré aussi pour la partie fiscale, c'est la question de Charles, parce que on commençait effectivement à n'avoir plus que l'amortissement d'une partie de l'immeuble, hein, parce qu'on amortit différemment le terrain, des meubles, des choses, c'est un peu complexe comptablement. Et donc pour justement aller réinvestir dans des appartements, recréer finalement du déficit sur la partie frais, parce que tu repaies des frais d'agence, tu repaies des frais de notaire sur les acquisitions, etc., que tu peux amortir à terme. Et puis, quand tu fais des travaux, tu aussi amortis les travaux sur plus long terme. Enfin, tu peux faire le choix, en fait, des travaux. Tu peux faire le choix soit pour certaines parties des travaux, soit de les amortir à terme, soit de les mettre en déficit reportable directement pendant 10 ans sur ton bas de bilan. Donc, mais on l'a fait aussi pour ça. Aussi pour ça. Et donc, grosso modo, la moyenne, c'est 8-10 ans. 8-10 ans, là, LMNP, tu es obligé d'arbitrer un bien et de recréer du déficit si tu veux rester dans cette notion d'optimisation fiscale. Voilà.
D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a un risque sur le LMNP quand même qui est que le statut saute et que la niche soit supprimée. Parce que c'est quand même une niche fiscale très favorable et c'est une des dernières. Je pense que c'est la seule dans l'immobilier qui est aussi favorable. Toi, c'est quelque chose que tu. C'est un risque réel pour toi?
Alors, j'ai plus en tête depuis quand le statut de LMNP existe, mais quand on investissait, nous, les premiers appartements 2010-2011, on nous disait déjà, oui, mais la LMNP, ça ne va pas durer.
Okay.
Donc, moi, je serais pas ça à votre place. Bon, évidemment, des conseils de gens qui ne l'avaient jamais fait.
Bien sûr.
Comme souvent. Voilà. J'ai dit, écoutez, moi, tant qu'il y a quelque chose à prendre, je le prends. Le jour où il faut arbitrer ou prendre une décision, ce n'est pas grave. Les biens qu'on achète seront quand même liquides parce que des gens voudront y mettre leurs enfants quand même. Voilà. Donc, j'aurai pas de sujet. Bon, bah, finalement, tu te rends compte que 10 ans après, le statut existe toujours, qu'on en a bien profité pendant 10 ans et qu'on espère encore en profiter pendant 10 ans. Si c'est pas le cas, en arbitrage, en jongle. Enfin, il faut être vachement agile, en fait, dans ce que tu fais. Je veux dire, aujourd'hui, tu investis dans une boîte qui a pignon sur rue, qui est en hyper-croissance. Demain, elle peut se casser la gueule, c'est exactement la même chose. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut citer dans d'autres domaines.
C'est clair. Thibaut veut savoir comment convaincre une banque de prêter sur 25 ans pour du locatif en 2021. C'est le titre d'un film, ça, d'ailleurs. C'est un film que tout le monde aimerait voir. Est-ce que ça existe? C'est possible ou pas, ça?
Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Après, ça dépend toujours, évidemment, de l'endettement, de l'encours, en fait. Okay. Le taux d'endettement, c'est une chose, mais après, il y a l'encours de la dette bancaire qui
joue aussi.
Qui pèse. Voilà, nous, par exemple, notre problématique, c'est vraiment la taille de l'encours. C'est pas le taux d'endettement. En fait, le taux d'endettement, quand tu as un patrimoine net, etc., qui est quand même intéressant. Bon, tu peux jouer avec des mécaniques, tu peux te payer des dividendes d'une année aussi pour faire remonter finalement ta charge de revenus. Enfin, y a plein de mécaniques. Mais par contre, l'encours, bah, il est ce qu'il est, quoi. Je veux dire, la dette, elle est là. Il y a ça à minima à rembourser. Il n'y a aucune garantie que ce soit fait. Donc, la problématique, elle est plutôt là. Donc, j'ai envie de dire, si quelqu'un n'a pas beaucoup d'encours, ça veut dire en dessous de... je sais pas si c'est par exemple un profil de cadre, hein, de cadre en région parisienne ou en province, peu importe. Franchement, jusqu'à 500 000 euros d'encours, à mon avis, c'est pas un problème. Peut-être même jusqu'à 800. Après, ça commence à être un peu plus compliqué. Et puis, passer le million d'encours, voilà, c'est... Bon, mais il faut faire différemment. Mais c'est mon expert comptable et je le cite. Alors, je sais pas s'il est là, mais je le cite. Ça m'étonne. Mais c'est un vrai fan de mon bouquin en plus, donc il est peut-être là. Mais du coup, il en fait la promotion à tous ses clients. Mais en fait, il m'a dit, je comprends pas qu'en fait, une personne de 40 ans n'ait pas son million d'encours, voilà, de dette bancaire. Parce que tout le monde devrait être capable de lever un million jusqu'à ses 40 ans, progressivement. Hein, voilà. Et à 40 ans, d'arriver avec un million d'encours. Et après, franchement, ça te garantit quand même une bonne retraite, quoi, derrière, tu vois, d'avoir ce million avec le patrimoine qui évolue, la valorisation. C'est un peu comme la Rolex de Sarkozy, quoi, voilà. Mais c'est plus facile à avoir un million d'encours avec l'immobilier, au final, j'ai l'impression.
Et d'ailleurs, les banques, tu les approches directement, tu passes par des courtiers, comment tu obtiens tes emprunts?
Je suis passé une fois avec un courtier, ouais. Pour une acquisition de trois appartements d'un coup. Et en fait, avec une banque qui était plutôt censée être banque haut de gamme, vous inquiétez pas, on va vous suivre, etc. On est une banque patrimoniale, investisseur et autres. C'était pas une banque privée, mais c'était, on va dire, une banque de réseau haut de gamme, qui a son siège à Toulouse d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, et qui m'a promis pas mal de choses. Et quand il a fallu aller sur un projet beaucoup plus gros derrière, stop, pas assez de recul, on vous connaît pas, gna 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 gna. Bon, ben voilà, on a vite trouvé d'autres solutions, quoi.
Ok, ça marche. Ismaël veut savoir comment tu gères les locataires mauvais payeurs. Du coup, vu ta quantité de biens, ça, c'est un sujet qui doit arriver régulièrement. Je crois que tu en avais parlé d'ailleurs sur ton Insta, que tu as eu un cas comme ça.
Ouais, mais c'est que sur des projets de marchand, en fait, qu'on a des problématiques d'expulsion. Okay. Mais on sait quand on achète. Parce qu'on, en l'occurrence, bien sûr, ouais. C'était un immeuble, un gros immeuble où il y a 13 gros appartements, du local commercial, etc. Et on savait qu'on avait acheté avec deux locataires dedans, c'est tout. Après, tout le reste était vide, dont un qui ne paye pas depuis 5 ans et un qui nous a jamais payé depuis qu'on a acheté. Donc, il ne devait pas payer non plus avant.
D'acheter ça.
Ouais, parce que voilà. Bon, voilà, on a eu gain de cause au tribunal, c'est ce que je partageais sur Instagram pour un qui ne paye pas dans 5 ans. Donc, s'il ne fait pas appel dans le mois qui arrive, il va être rapidement dégagé avant la trêve hivernale, parce que c'est mi-octobre. Et après, l'autre est parti de son propre chef, là, parce que voilà,
on l'a convaincu. Envoyer Sébastien Chabal lui faire un coup, c'est ça?
Non, mais on l'a convaincu, voilà.
Ok, ouais, il faut avoir des bons arguments, mais ok, ça marche. Alors, je saute un peu les questions pour que... Ah, voilà, l'immo-papier, intéressant. Quid de l'immo-papier, veut savoir Jonathan? La SCPI, je sais pas, des ETF qui investissent dans des foncières cotées, est-ce que tu fais ça, des OPCI?
Non, je... alors la SCPI, oui, avec Activimo, qui est une SCI, c'est pas pour faire de la pub, hein, parce que j'ai aucun intérêt, mais je le partage. Activimo, qui est une SCI qui investit majoritairement dans les activités logistiques, auxquelles je crois beaucoup. Voilà.
Ouais.
auquel je crois beaucoup parce que bah, parce que l'e-commerce, bon, en plus
ouais,
c'est mon dada,
explose,
donc,
ouais.
Voilà, je suis en plein dedans. Ça explose et ça c'est pas fini. Hier j'étais chez Cdiscount toute la journée, visiter les entrepôts logistiques, le siège, etc. Je peux vous dire que c'est un autre niveau, la logistique chez Cdiscount, et ça envoie du pâté. Et donc les entrepôts, il en faut pour stocker tout ça. Et donc j'y crois beaucoup. Et ils ont que 30% de bureaux et ça me va très bien. Voilà. Et après sur de la partie immobilier papier, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt l'obligation amortissable. Donc là, je vais prêter pendant un an et demi, 2 ans, voire 2 ans et demi maximum. Et c'est plutôt rare. Je prête plutôt sur des projets courts, hein, avec des plateformes de crowdfunding. Voilà, et là, c'est plutôt pour. Je prête toujours en personne morale, hein, du coup, c'est plus pour faire travailler l'argent de la holding.
Ouais, c'est la trésor.
Ouais, exactement. Ça fait travailler ta trésor à entre 8 et 10% selon les projets. Il y a un peu de défaillance, ça arrive. Mais l'avantage de passer par des plateformes comme ça, c'est qu'il y a quand même une armée juridique derrière et ça peut être long, mais tu retrouves quand même toujours ton pognon à la fin, quoi.
Enfin, okay.
99% du temps, quoi.
Mais il faut bien diversifier, j'imagine. Faut faire beaucoup de projets. Ok.
Ouais, voilà.
Maxime veut savoir, d'ailleurs, j'ai vu cette question avant. Est-ce que c'est possible d'emprunter si on est freelance et qu'on n'a pas de CDI?
C'est plus difficile. C'est plus difficile. Après, je suis honnête. Je me suis aussi remis salarié il y a quelques années pour réemprunter massivement dans l'immobilier. Donc, c'est qu'il y a une relation quand même de cause à effet importante.
Il y a une corrélation forte.
Ouais. Et du coup, je reste persuadé que le CDI, malheureusement, est un acronyme important en France, une étiquette importante. Et je connais des entrepreneurs qui ont des boîtes qui valent pas mal de millions et qui ont du mal à emprunter pour aller investir dans l'immobilier. Parce que leur valo, finalement, elle est dans la boîte, qu'elle n'est pas dans leur poche. Et que ça reste compliqué.
Pour info, c'est un cas très fréquent. Donc, il y a des boîtes que vous connaissez tous, dont les patrons ne peuvent pas emprunter, en fait, parce que les banquiers ne comprennent pas le modèle, ce modèle-là.
C'est absolument horrible. Enfin, franchement.
Ouais, c'est absurde. C'est absurde. Voilà, je pense que c'est une énorme opportunité, d'ailleurs, chez Finaris. C'est quelque chose qu'on regarde de très près parce que, voilà, ces gens-là ont besoin d'emprunter et ils sont solvables. Ils sont même plus solvables que quelqu'un en CDI. Et pour info, c'est possible d'emprunter sans CDI parce que je l'ai fait. Et j'ai fait exactement ce que tu as dit, j'ai mis plus d'apports, c'était du locatif, et aussi j'ai fait un PPD, un privilège prêteur de deniers. Et voilà, ça se fait, mais mon petit conseil, c'est d'aller voir la banque des parents, la banque de famille au coin de la rue. Et eux, quand ils ont un historique, ils voient que depuis 30 ans, il y a un compte au nom de la famille qui travaille, bah, ça inspire confiance. Et après, quand le projet est bien ficelé, ça se fait. Ça se fait, mais il faut être prêt à mettre de l'apport. C'est un peu la seule condition, je pense. Et on va terminer.
Oui. Tu avais investi en plus un endroit où tu connais ça, Chambéry.
Ouais, exactement. J'ai investi à Chambéry, qui est ma ville natale. Voilà. Moi, j'ai appliqué vraiment j'avais pas lu ton livre encore, mais j'ai appliqué tes préceptes, à savoir, j'ai investi dans ce que je connais, je commence petit, je découvre, je fais tout moi-même. Et d'ailleurs, j'en parle dans la communauté. Je parle sur la communauté. J'ai eu plein de galères déjà. Là, on refait la toiture pour info. Donc voilà, j'ai eu toutes les galères. Le locataire est parti le premier mois. Enfin bref. Mais c'est hyper intéressant et je suis très content que ça me soit arrivé sur un T2 et non pas sur un immeuble de rapport où voilà, j'aurais été tout de suite pris à la gorge, complètement dépassé. Surtout, moi, j'ai pas envie d'en faire mon activité principale comme toi. Donc il faut quand même que ça prenne pas trop de temps. Donc commencer petit, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. On va prendre une dernière question. C'est Alexandre Darbois que je salue, qui pose cette question. Donc, sans rentrer dans le détail, en fait, la question d'Alex, c'est il dit qu'on ne peut pas partir avec 500 euros d'épargne. Enfin, est-ce qu'il faut un montant minimum pour pouvoir emprunter? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un certain capital pour pouvoir se lancer? Est-ce qu'il y a une règle pour ça?
Franchement, on n'avait pas beaucoup d'épargne quand on a démarré. Après, c'était peut-être plus facile parce qu'il y avait moins de monde qui voulait emprunter et qui faisait la queue à la banque pour aller chercher de l'argent. En 2010, c'est sûr que l'immobilier était beaucoup moins démocratisé que maintenant. Maintenant, ça pullule partout. Internet a aidé à ça aussi. Enfin, les réseaux sociaux ont vachement aidé à ça. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, on le verra dans le temps, mais je crois qu'il faut quand même un minimum d'épargne. C'est-à-dire que franchement, si tu n'as pas 3-4 mois de vivre devant toi en épargne, c'est un peu plus compliqué et c'est normal. Je dirais, il y a quand même une grosse partie de risque. Ça reste un investissement. Déjà, il y a des frais de dossier à payer, que la banque souvent n'en fait pas cadeau. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un truc quand tu empruntes en pro, tu peux être sûr que les frais de dossier, ce n'est pas les mêmes que, ouais. qu'en perso. Tu as les frais de dossier, la banque va peut-être te demander de faire un petit peu ci, de leur placer un petit peu d'argent par-ci, par-là. Bon, il faut pas beaucoup, hein, je pense que voilà, mais dire on peut partir vraiment de rien, c'est-à-dire j'ai zéro, j'ai que mon salaire à la fin du mois, et si j'ai pas le salaire, grosso modo, je peux pas payer mon loyer. Bon, là, c'est quand même, il y a quand même un monde, quoi. Mais je pense que si on a 3-4 mois d'avance, donc je sais pas si quelqu'un a un salaire de 2000 euros net, voilà, d'avoir peut-être 6-8 000 euros de côté, ça peut déjà suffire pour emprunter, à condition de ne pas avoir un crédit sur une bagnole, par exemple. Voilà.
Super, très clair. Bon, bah écoute, Julien, ça fait un peu plus d'une heure qu'on échange, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Merci pour ta transparence, merci pour tous tes conseils. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher dans ce que tu as dit. D'ailleurs, tu es sur la communauté, donc si vous avez des questions peut-être que vous voulez poser, bah, posez-les là-bas, comme ça tout le monde pourra profiter des réponses de Julien. Donc voilà, merci pour ton temps, c'était hyper intéressant. Est-ce que tu veux, enfin, tu as un mot de la fin, tu veux donner peut-être un petit conseil pour la route?
Non, pas vraiment de conseil. Je pense que voilà, en tout cas, tout retour d'expérience est bon à prendre, donc je suis ravi si ça a pu voilà, servir en tout cas à quelques personnes. Et je suis un passionné, donc j'adore partager aussi.
Ça se voit.
Comme tu dis, j'ai pas de formation avant, tout ça. Je, d'ailleurs, je suis anti-formation. Je préfère me former sur le terrain ou m'enrichir, comme je disais, d'expérience autour. Alors oui, j'ai écrit un bouquin, mais en fait, je l'ai écrit aussi pour moi parce que j'avais envie aussi de marquer un petit peu tout ça, d'écrire noir sur blanc. Puis ça m'a occupé pendant les week-ends du confinement aussi parce que
je tourne.
Voilà, ouais, c'est sorti l'été dernier. Ouais. Enfin,
peut-être sur le bouquin, c'est quoi le, en deux mots, on imagine bien que c'est au sujet de l'immobilier, mais c'est quoi ce que tu as voulu aborder?
Le bouquin, finalement, c'est mon partage d'expérience. Alors, c'est une partie mindset, c'est comment moi je vois un petit peu la partie investissement immobilier, en tout cas l'entrepreneuriat adapté à l'investissement immobilier, comment j'approche ça. Donc, je parle un peu de ça, partie mindset. J'aborde la partie imposition, mais par contre c'est pas du tout un livre théorique, hein, donc c'est vraiment du retour d'expérience. Après je partage voilà, ce qui à mon avis fait qu'on peut devenir un investisseur immobilier à succès, mais encore une fois c'est vraiment que du partage d'expérience. Ouais. Et je suis assez transparent dedans, donc je partage quelques chiffres d'opérations, etc. Voilà. Et après, je partage beaucoup sur Instagram. J'essaie d'être de plus en plus actif, notamment sur la partie marchand de biens où il y a toujours des choses à dire et toujours des mauvaises surprises et des bonnes surprises. Et puis sur
Julien Invest aussi, sur Instagram, si vous voulez aller voir. Suivez Finari d'ailleurs aussi sur Instagram au passage, puisqu'on vient de se lancer. Donc voilà, s'il y a deux comptes à recommander, c'est vraiment ces deux-là.
Julien underscore, donc tiré
Julien du underscore bas. Invest.
Ouais, tiré du bas, Invest. Voilà. Et Finari qui est tout neuf sur Instagram.
Qui est tout neuf. D'ailleurs, on s'est lancé avec toi. Donc, ouais. Et donc, ça me permet de clôturer sur un sondage. Voilà, je vais encore vous mettre à profit. Alors, est-ce que vous voyez le sondage? Est-ce qu'on voit le sondage? Oui. Donc, si vous n'avez pas encore voté, prenez le temps de voter maintenant. Le prochain Finari Talk sera sur la crypto. J'ai vu qu'il y avait des questions sur la crypto, mais on va parler crypto. On va parler de plein de choses. Mais du coup, votez maintenant pour dire que si vous voulez plutôt qu'on parle des revenus passifs, donc comment investir, comment générer des revenus passifs en crypto. Ça, c'est un thème. Et l'autre thème, c'est comment découvrir le prochain Ethereum, le prochain Bitcoin, enfin, comment découvrir la prochaine pépite avant tout le monde. Voilà, on va...
J'ai voté.
T'as voté, ok. T'as voté pour quoi?
Comment trouver le prochain Ethereum.
Ça, c'est le genre de poker, ça.
Ouais, exactement. Mais c'est pas la majorité, a priori.
C'est pas la majorité. A priori, on va plutôt partir sur le sujet, mais voilà, on va en clôturer les votes dans quelques instants. Merci encore, Julien, c'était vraiment trop cool. Ce talk sera disponible sur YouTube dès demain, donc vous pourrez le voir en replay. Il sera posté sur la communauté. Et je vous donne rendez-vous sur Finari, évidemment, et aussi rendez-vous dans un mois pour un nouveau Finari Talk sur la crypto avec un invité hyper prestigieux, donc ça va être top. Julien, c'était déjà hyper prestigieux, là, ça sera aussi hyper prestigieux.
Merci Mounir, c'était vraiment un plaisir et bonne soirée à tous et au plaisir d'échanger à nouveau sur la communauté.
À très vite, bonne soirée à tous, bye bye.
À plus, ciao.
Et voilà, cet épisode de Finari Talk est déjà terminé. Envie de continuer la conversation avec d'autres investisseurs et investisseuses? Rejoignez-nous sur notre communauté community.finari.com. Et pour rejoindre Finari, rendez-vous sur les stores et sur finari.com. Vous gagnerez du temps et de l'argent en passant à Finari Plus, notre version premium, qui vous permettra de profiter de toutes nos fonctionnalités, telles que le mode famille, l'analyse des frais ou encore le suivi des dividendes. On vous offre 7 jours pour découvrir Finari Plus. Alors à bientôt !